houleuse avec Washington, nous ferons le point sur les chantiers qui attendent Léon XIV, successeur de François.
Nous retrouverons aussi notre correspondant direct de Moscou, où se prépare un grand défilé militaire en ce 9 mai. Pour les 80 ans de la victoire sur l'Allemagne nazie, la ville est sous cloche, vraiment.
Un eurodéputé PS propose un conclave pour désigner le candidat de la gauche française à la prochaine présidentielle. Et puis dans un quart d'heure, le billet politique de Stéphane Robert.
Les Français pourraient bientôt être consultés par référendum. Emmanuel Macron devrait en dire plus mardi soir sur TF1.
Hier encore, il était cardinal. Aujourd'hui, Robert Francis Prévost, 69 ans, s'est réveillé pape. Léon XIV est le premier originaire des États-Unis, natif de Chicago, réputé pour être un modéré, un homme d'écoute et de synthèse. Ses premiers pas seront scrutés, à commencer hier par sa première apparition en tant que chef de l'Église catholique au balcon de la basilique Saint-Pierre, acclamé par des dizaines de milliers de fidèles. Bonjour Anaïs Feuga.
Bonjour Margot.
Envoyé spécial de Radio France au Vatican, beaucoup de dossiers l'attendent et il semble déjà préoccupé par les conflits internationaux, Anaïs.
Eh bien écoutez, j'ai compté, le mot « paix » est revenu à 8 reprises lors de sa prise de parole à la Loggia de Saint-Pierre. Dans un monde en guerre, Ukraine, Gaza en tête, le pape semble donc en faire sa priorité. Tout comme dans un contexte de désordre mondial, il lui faudra gérer les relations glaciales du Vatican avec les États-Unis. Il s'était déjà opposé fermement à la politique migratoire de Donald Trump. Et puis il a choisi Léon pour nom de pape, comme Léon XIII, le pape social, celui de l'encyclique Rerum Novarum. Et il va sans doute vouloir approfondir la réflexion de l'Église sur ces questions de justice et des périphéries. Autre dossier, la gouvernance. Son profil de religieux augustin qui recherche l'unité devrait faciliter le dialogue dans une église multiculturelle et lui permettre aussi d'avancer sur un chantier ouvert par le pape François, celui de la réforme de la curie. Mais le nouveau pape est aussi attendu sur la place des laïcs et particulièrement sur la place des femmes. Sera-t-il le pape qui autorisera les femmes à devenir diacres? Enfin, il reste encore beaucoup à faire sur les violences sexuelles. Chantier initié par Benoît XVI, poursuivi par François et encore loin d'être abouti.
Et pour l'heure, Anaïs, quels sont les premiers impératifs de Léon XIV ?
Eh bien, le premier rendez-vous, c'est dès la fin de matinée, 11h, chapelle Sixtine, messe privée avec les cardinaux, mais elle sera retransmise par le Vatican. Et bien évidemment, on va scruter ce qu'il dira dans son homélie, comme on va regarder de près ces prochaines heures, ces signes qui vont donner une indication du style du prochain pontificat. Va-t-il rester à la résidence Sainte-Marthe comme François? Ça avait été une vraie rupture il y a 12 ans. Ou va-t-il reprendre possession des appartements pontificaux dans le palais apostolique? Hier soir, il avait semblé revenir à une forme plus classique dans l'apparence, en portant la mozette et l'étole rouge.
Anaïs Feuga, un pape originaire des États-Unis, c'est un grand honneur, a réagi le président américain Donald Trump. Notons tout de même qu'il a passé des années au Pérou, puis en Italie. Il est aussi le premier à avoir déjà un compte sur le réseau X, avec plus de 400 messages, principalement des retweets. Un compte surtout utilisé ces derniers mois pour critiquer l'administration Trump. À Washington, Hélène Chevalier.
Ce qui donne du poids à ces messages, c'est que le compte X de Robert Francis Prévost était resté silencieux pendant 2 ans. Il le réactive en février dernier en écrivant ces mots « J.D. Vance a tort. Jésus ne nous demande pas de hiérarchiser notre amour pour les autres. Il s'agit en réalité du titre d'un article d'un journal catholique américain qui s'attaque à l'interprétation qu'il juge fallacieuse de l'Ordo Amoris, une théorie catholique moyenâgeuse que J.D. Vance a invoquée pour justifier sa politique anti-migrant. Mais ce n'est pas la première fois que le futur pape prend position sur le sujet. Dès 2015, alors qu'il n'est encore qu'un évêque peu connu, il partage un article dénonçant, je cite, « la dangerosité de la rhétorique anti-migrant de celui qui n'est encore qu'un candidat à la présidentielle, Donald Trump ». Dans leur message de félicitations, le locataire de la Maison-Blanche et son vice-président ne semblent pas avoir pris ombrage de ces critiques. Elles n'ont pas échappé en revanche à Laura Loomer. Bien sûr qu'il est anti-MAGA et woke, encore un pape pour l'ouverture des frontières. Écœurant, a tweeté l'influente figure d'extrême droite.
Et dans la ville natale du nouveau pape, Chicago, où il a effectué son séminaire avant de partir très jeune, les habitants sidérés découvrent un souverain pontife qu'ils espèrent à leur image sur place Claude Guibal.
Il a un grand sourire sur le visage, le père Pedro, lorsqu'il débute sa messe en espagnol devant les paroissiens nombreux sur les bancs de l'église Sainte-Marie-des-Neiges, dans ce quartier populaire de Chicago. Il dédie l'Eucharistie au nouveau pape tout juste élu. Léon XIV, Robert Prévost, né à Chicago le 13 septembre 55 et élevé à Dalton, à 2 pas d'ici. Mais l'église Sainte-Marie de l'Assomption, où il allait enfant, a disparu depuis longtemps. En vente aussi la maison de briques rouges où il a vécu avec ses parents, Louis, d'origine française, proviseur de collège et Mildred, bibliothécaire et très dévote. Dans ce quartier, aujourd'hui, on évite de traîner à la nuit tombée. Judy Matthews vit au centre-ville, mais elle a quand même voulu aller voir. Ce qu'elle espère, elle, c'est que le nouveau pape porte les idéaux des habitants de Chicago, une très grande ville ouverte d'esprit. Dès la fumée blanche, les médias locaux se sont rués au domicile du frère du pape, John. Pas surpris. Il y a des enfants qui veulent jouer à la guerre, raconte-t-il à CBS Chicago. Lui, il voulait jouer au prêtre. Il prenait la planche à repasser de notre mère, il mettait une nappe dessus et il fallait qu'on joue à la messe. C'était pas un jeu. Mariana Sanchez était, elle, au café avec sa mère lorsqu'elle a appris la nouvelle. Elle a même eu les larmes aux yeux en réalisant que Léon XIV était de Chicago. Elle sait aussi que Léon XIV a quitté Chicago très jeune pour partir en mission au Pérou. Le pape Léon a montré de la compassion pour les migrants et les pauvres, dit-elle. Elle espère que cela changera le regard sur la migration.
Emmanuel Macron souhaite que ce nouveau pontificat soit porteur de paix et d'espérance quand Vladimir Poutine se dit certain que le dialogue constructif va se poursuivre. Le président russe qui doit s'exprimer aujourd'hui devant ses troupes et les dirigeants d'une vingtaine de pays rassemblés sur la place Rouge à Moscou. La Russie célèbre les 80 ans de la victoire sur l'Allemagne nazie, l'occasion pour le Kremlin de décréter unilatéralement une trêve de 3 jours en Ukraine où l'invasion russe dure depuis le 24 février 2022. Bonjour Sylvain Tronchet.
Bonjour Margot.
En direct de Moscou, où vous allez suivre le grand défilé militaire annuel, la ville est sous cloche Sylvain.
Oui, c'est une capitale russe barricadée sous cloche, effectivement, qui s'apprête à célébrer le 80e anniversaire de la victoire de l'armée rouge dans ce que l'on continue d'appeler ici la grande guerre patriotique. Le réseau mobile devrait être coupé à Moscou sous peu, le GPS aussi. Par peur des raids de drones, les policiers quadrillent littéralement la ville. Il y en a un tous les 5 mètres et ce n'est pas une image hein, pour accéder ne serait-ce qu'aux alentours de la place rouge. Il faut passer 1, 2, parfois 3 contrôles de sécurité depuis des semaines maintenant. Hein, déjà, la police fait des contrôles chez les habitants qui se trouvent sur le parcours. Et c'est donc dans cette ambiance que Vladimir Poutine devrait prononcer son discours sur la place Rouge tout à l'heure, entouré d'une vingtaine de chefs d'État, parmi lesquels les présidents chinois et brésiliens, Xi Jinping et Lula, et quelques autres connus pour leur alignement sur le Kremlin ou leur sympathie pour le régime, comme le vénézuélien Nicolas Maduro ou le président slovaque Robert Fico, seul représentant de l'Union européenne. Le défilé qui va commencer dans une heure maintenant, précisément au moment où sonneront 10 heures à la tour Spasskaya. Il y aura quelques détachements étrangers dans le défilé militaire, des Chinois notamment, qu'on a vu arriver ici tout à l'heure. Et puis, bien entendu aussi, des combattants de l'opération militaire spéciale, comme on dit. On célèbre la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais c'est bien une autre guerre, la guerre en Ukraine, qui est dans tous les esprits ici.
Sylvain Tronchet en direct de Moscou. Le 9 mai, c'est aussi la journée de l'Europe. Le chef de l'État Emmanuel Macron a rendez-vous à Nancy avec le dirigeant polonais Donald Tusk pour signer un traité d'amitié renforçant le partenariat entre les deux pays.
Il est 8h08 sur France Culture, Margot Delpierre, au terme d'une semaine chargée en commémoration, on l'entendait. La rédaction de France Culture s'interroge 80 ans après comment évoquer la Shoah au musée.
C'est le grand reportage diffusé ce soir à 17h. Que faut-il montrer ? Jusqu'où la médiation doit-elle pousser l'incarnation ou encore utiliser l'émotion ? Au musée d'Auschwitz-Birkenau, la scénographie actuelle datée de 1955. Elle est en train d'être renouvelée avec une première livraison à l'automne prochain. Chloé Leprince a rencontré sur place Piotr Czewinski, le directeur du musée mémorial d'Auschwitz-Birkenau.
Il y a une mode qui a commencé dans la seconde moitié des années 90, qui est en fait de faire des musées d'une narrative historique que l'on traverse un peu comme on lit un livre. Il y a une introduction, il y a plusieurs chapitres et puis une conclusion. Et à Auschwitz, c'est une exposition complètement différente. C'est une exposition que moi j'appellerais phénoménologie, dans le sens où l'on ne raconte pas toute l'histoire à travers cette exposition, on la montre. On montre justement ses valises, ses chaussures, ses 2 tonnes de cheveux, etc. Et je crois que ça a marché fantastiquement. C'est un peu le sens d'un musée. Je veux dire, un musée, ça ne sert pas à raconter une narrative. Un musée, non. À la base, c'est pour montrer que ce soit une collection ou des objets, etc. Et là, ça a superbement bien marché parce que ça a donné à ces objets à ses valises, à ses chaussures, des rôles de symbole, l'élément qui parle. Et c'est pour ça que maintenant, lorsque nous travaillons, et cette année-là, on va ouvrir un premier tiers de la nouvelle exposition générale, on a vraiment mis beaucoup d'efforts pour sauvegarder ce caractère phénoménologique, de moins parler et plus montrer.
Piotr Tchevinsky, directeur du musée mémorial d'Auschwitz-Birkenau. 80 ans après, comment parler de la Shoah au musée? C'est un grand reportage signé Chloé Leprince, réalisé par Annie Brault, présenté par Aurélie Kiefer. Rendez-vous donc à 17h. Quant au Vatican, un conclave se termine. En France, un élu socialiste s'en inspire pour la gauche. L'eurodéputé Christophe Clergeau, vice-président du groupe socialiste au Parlement européen et proche d'Olivier Faure, a publié cette semaine une tribune dans le Nouvel Obs, il veut encore croire à l'union de la gauche et plaide pour un représentant unique pour la présidentielle de 2027. Pour y arriver, il propose de s'inspirer directement du conclave pontifical, Mélanie Kuzelevich.
Les formules de primaire citoyenne ne marchent pas, c'est le constat de Christophe Clergeau. Pour trouver une candidature unique à gauche pour 2027, l'eurodéputé socialiste propose donc une autre méthode dans l'air du temps.
Moi, je propose tout simplement d'enfermer un jour, deux jours, trois jours s'il faut, tous les responsables, femmes et hommes de gauche, société civile, qui veulent porter une candidature commune de gauche pour se mettre d'accord sur une candidature, comme fonctionne un conclave, c'est-à-dire dans le secret et avec l'obligation de trouver une majorité très large, une forme de consensus, majorité aux deux tiers ou à 70%. Il faut vraiment aujourd'hui dépasser les logiques de chapelle pour viser l'intérêt général de la gauche et du pays.
Mais à l'exception de la chef des écologistes, Marine Tondelier, qui plaide pour le rassemblement le plus large possible, s'unir semble bien moins évident pour les autres partis de gauche, en particulier pour LFI, qui a acté la rupture avec le PS. Mais même sans les insoumis, Christophe Clergeau veut y croire.
Toutes les enquêtes d'opinion montrent que plus on est rassemblé, mieux c'est, mais qu'une candidature commune de la gauche et des écologistes, même sans LFI, peut atteindre le second tour de l'élection présidentielle. Donc aujourd'hui, c'est LFI qui indique vouloir avoir sa propre candidature et ne pas vouloir rechercher cette union. Mais le champ de ce qu'il faut rassembler reste très important. Les communistes, les écologistes, les socialistes dans leurs différentes sensibilités.
Dans tous les cas, pour l'eurodéputé, il faut innover et changer de méthode. Car sans union, prévient-il, la gauche court à la catastrophe.
60% des chefs de bord se sont déclarés grévistes sur le TGV aujourd'hui, mais la direction prévoit un trafic presque normal. Le syndicat Sudrail et un collectif de contrôleurs appellent à se mobiliser aujourd'hui, demain et dimanche pour réclamer une augmentation de leurs primes de travail et une meilleure anticipation des plannings, trop souvent modifiés à la dernière minute d'après eux. La CGT Cheminots a déjà prévu de poursuivre le mouvement les 4, 5 et 11 juin dans plusieurs catégories de personnel. Weight Watchers doit éliminer plus d'1 milliard de dollars de dettes. Une cure d'amaigrissement violente pour le spécialiste américain des régimes minceurs fondé en 1963. Malgré ses presque 3,5 millions de membres, la marque qui a cessé ses activités en France en début d'année ne semble plus être la référence pour maigrir, Chloé Geoffroy.
L'entreprise souffre largement du succès des nouveaux médicaments anti-obésité. On peut citer par exemple l'Ozempic ou le Wegovy, médicament coupe-faim prescrit sur ordonnance, développé à l'origine contre le diabète, puis détourné pour lutter contre l'obésité. Leur promesse, faire perdre environ 15% de poids en quelques mois. Un marché qui cartonne aux États-Unis. 40% des Américains sont obèses, 80% sont en surpoids. Weight Watchers, qui s'est fait connaître en vendant des conseils diététiques et des programmes minceurs, n'attirent plus automatiquement les gens qui veulent perdre du poids. Aujourd'hui, on se tourne vers de nouvelles méthodes, parfois plus tendance. Rappelons que Weight Watchers, né en 1963, fait partie de ces marques comme Tupperware qui traînent une image un peu vieillotte, voire ringarde face à de nouveaux modes de consommation. Il y a notamment l'arrivée d'applications gratuites, de remise en forme, les conseils des influenceurs aussi sur les réseaux sociaux, ou encore les spécialistes de livraison des repas de régime à domicile. Des tendances de fond qui n'enterrent pas définitivement la marque. Le dépôt de bilan est volontaire, ce qui permet à la société de bénéficier d'un délai pour atteindre un point d'équilibre. Pas sûr en revanche que cela attire de nouveaux consommateurs.
Les précisions de Chloé Geoffroy. Météo France prévoit du soleil aujourd'hui dans une moitié nord de l'Hexagone, des nuages dans une moitié sud avec parfois quelques averses. 19 degrés cet après-midi à Lille comme à Tours, 18 à Marseille et Strasbourg, 20 à Paris et La Rochelle. 8h14, les matins continuent, Jean-Lémarie.
Merci Margot Delpierre, je vous souhaite un très bon week-end. Et je vous donne le programme des prochaines minutes sur France Culture. Dans quelques instants, nous allons retrouver nos invités pour évoquer les chantiers du nouveau pape. Nos invités, Blandine, Shelley Nippon, Denis Pelletier et en duplex de Rome, Marco Politi. Un peu plus tard, vers 9h10, nous retrouverons François Saltiel, un monde connecté. François qui évoquera aujourd'hui une enquête du média Politico. Elle révèle comment l'armée ukrainienne utilise des stratégies de gamification propres aux jeux vidéo, donc pour motiver et récompenser ses troupes. Et puis dans son regard culturel, Lucille Como, elle s'arrêtera sur la série Rami, de l'humoriste américain d'origine égyptienne, chronique de la vie d'un musulman dans le New Jersey, série disponible sur Arte. Vous verrez. Mais avant tout ça, nous aurons un billet politique, celui de Stéphane Robert. Bonjour mon cher Stéphane.
Bonjour Jean.
Et les Français seront peut-être bientôt consultés par référendum. Le mot revient.
En tout cas, Emmanuel Macron y pense.
On voit ça dans un instant.
Chaque vendredi dans votre book club, une personnalité nous ouvre les portes de sa bibliothèque.
Marie Richeux.
Aujourd'hui, c'est la pianiste Anne Kefelek qui nous invite à parcourir ses rayonnages. On y trouve une correspondance entre Rainer Maria Rilke et une musicienne, une nouvelle de Gustave Flaubert, la langue de Vladimir Jankélévitch et la poésie poignante de Charlotte Delbo.
Le book club, du lundi au vendredi à 15h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Et si les mots pouvait défier une dictature. À travers la poésie, la musique et les combats d'une jeunesse soudanaise, Hind Medeb dresse le portrait d'une révolution brisée. Entre espoir et exil, le film retrace l'élan démocratique né après 30 ans de répression, jusqu'à ce que la guerre vienne tout détruire. Soudan, souviens-toi, un film de Hind Medeb, actuellement au cinéma. Un film France Culture. Les matins de France Culture. Jean Lemarie.
Le billet politique Stéphane Robert et donc Stéphane, la tentation d'un référendum présidentiel.
Alors qu'il ne s'occupait plus que des affaires du monde depuis de nombreux mois, Emmanuel Macron aurait l'intention de réinvestir la scène nationale. Et la première étape passe par une longue interview qu'il donnera mardi prochain sur TF1 et qui devrait durer 2 heures, interview au cours de laquelle il a l'intention d'expliquer aux Français les défis qui attendent la France dans les mois et dans les années à venir. À cette occasion, il pourrait annoncer, dit-on, l'organisation d'un référendum. Un référendum à questions multiples avec 2, 3 ou 4 questions dont on ignore à ce stade à peu près tout. C'est ce que laisse entendre son entourage ainsi que des conseillers à l'Élysée dont les messages sont relayés ces derniers jours par plusieurs titres de presse. Ce n'est pas nouveau chez Emmanuel Macron cette tentation du référendum. Il en avait évoqué la possibilité au lendemain de son élection en 2017 quand il a réuni le congrès à Versailles. Depuis, il en fut question à plusieurs reprises. Il en a encore évoqué l'éventualité lors des vœux présidentiels du 31 décembre dernier. Mais l'outil jusqu'ici n'a jamais été dégainé. Nous verrons par conséquent si cette fois si est la bonne, mais la tentation en tout cas semble plus que jamais là du côté du chef de l'État.
Bon, il y a tout de même un risque, comme toujours avec un référendum, Stéphane, c'est que les Français ne répondent pas à la question posée, mais d'abord à celui qui la pose.
Oui, c'est ce qui est arrivé au général de Gaulle en 1969. Après la contestation sociale et sociétale qui s'était exprimée en mai 68, le lien entre les Français et leur président s'était distendu. Après 10 ans d'exercice du pouvoir, il régnait comme une ambiance de fin de règne, et de Gaulle a voulu retrouver une légitimité via le suffrage universel. Il a donc organisé un référendum sur des sujets qui ne le méritaient pas forcément, la réforme du Sénat et la régionalisation, et il a engagé sa responsabilité. Les Français ont alors bien compris l'enjeu et ils n'ont pas répondu à la question posée, mais à De Gaulle qui a été désavoué. 56 ans plus tard, Emmanuel Macron pense avoir trouvé la parade. Il ne poserait pas une seule question, mais plusieurs, forçant ainsi les Français à répondre à chacune d'entre elles et pas à celui qui la pose. Il n'est pas certain que le stratagème fonctionne, car si les questions posées sont secondaires et s'il apparaît que le véritable enjeu du référendum est le plébiscite qu'en attend le président pour se régénérer politiquement, Emmanuel Macron donne le sentiment qu'il détourne la Constitution pour son intérêt personnel et le résultat pourrait bien être le même qu'en 1969, 3 fois non.
Se régénérer politiquement, dites-vous Stéphane, ça c'est l'objet de tentatives récurrentes chez le chef de l'État.
Oui, surtout depuis sa réélection en 2022 et depuis qu'il a perdu la majorité dont il disposait à l'Assemblée nationale lors du premier quinquennat. En septembre 2022, quelques mois après les législatives à l'issue desquelles il n'obtient qu'une majorité relative, il crée le CNR, le Conseil National de la Refondation. Il s'agissait d'une instance déclinée à l'échelle régionale, départementale et locale, au sein de laquelle on réunissait des responsables politiques, des syndicats, des responsables d'associations, des représentants de la société civile. On définissait une thématique et tout ce petit monde essayait de trouver des solutions concrète. L'objectif, en réalité, était d'essayer de constituer une instance de décision qui permettait au président de contourner le Parlement et de reprendre la main politiquement. Ça n'a jamais réellement fonctionné et au bout d'un an, le CNR fut abandonné. Ensuite, il a mis en place un nouvel outil, les réunions au format Saint-Denis. Le nom vient du fait que la première s'est tenue le 30 août 2023 à l'école de la Légion d'honneur à Saint-Denis. Là, il s'agissait de réunions des chefs de partis politiques avec lesquels il essayait de se mettre d'accord sur différents chantiers à mettre en œuvre, notamment des chantiers institutionnels. En réalité, et de la même manière, il s'agissait pour le président de contourner le Parlement où il n'avait pas de majorité et de tenter de reprendre la main politiquement. Plusieurs chefs de parti ont considéré qu'ils étaient instrumentalisés et ont refusé de s'y rendre. Et le processus, là encore, a fait long feu.
Et donc Stéphane, aujourd'hui, c'est un peu la même chose avec ce projet de référendum.
Oui, vraisemblablement. Et puis, il ne se passe pas grand-chose à l'Assemblée nationale. Les majorités sont très difficiles à trouver. Et le Premier ministre est de plus en plus accusé d'immobilisme, voire de dilettantisme, ce qui agace profondément le chef de l'État. Et il a sans doute la volonté d'en sortir pour retrouver une capacité d'agir politiquement. Mais au-delà de ça, il y a peut-être une dimension supplémentaire. Car à travers le référendum, Emmanuel Macron s'adresserait directement au peuple français. Et il y a peut-être, alors que plane déjà une ambiance de fin de règne à 2 ans de la prochaine présidentielle, la volonté de renouer le lien originel avec les Français, celui qui l'a porté au pouvoir, comme par magie, en 2017. Il avait su d'ailleurs une première fois renouer ce lien en 2019, avec le grand débat qui a mis fin à la crise des Gilets jaunes. Aujourd'hui, on le voit depuis quelques mois, lors de ses déplacements, s'arrêter à l'improviste dans des cafés de village sans prévenir personne. Emmanuel Macron paie la tournée et il tape la causette avec les clients. On voit bien qu'il essaie de réparer, de restaurer ce lien aujourd'hui abîmé avec les Français. Il y a donc vraisemblablement, avec cette idée de référendum, la tentation, la volonté, comme de Gaulle en 69, de régénérer son pouvoir finissant, ce qui pourrait, comme de Gaulle en 69, lui valoir un revers retentissant.
Le billet politique de Stéphane Robert. Merci Stéphane. Dans une poignée de secondes, nous retrouvons nos invités pour évoquer les chantiers du nouveau pape Léon XIV. Il est 8h21.
6h30, 9h, les matins de France Culture. Jean Lemarié.
3 invités ce matin pour évoquer ce pape. Un nouveau pape, mais pour quelle église? Voilà la question que nous abordons, que nous posons à nos 3 invités. Blandine Chélini-Pont, professeure d'histoire contemporaine à l'université d'Aix-Marseille. En duplex de Rome, Marco Politti, grand spécialiste du Vatican. Et avec moi en studio, l'historien Denis Pelletier. Je signale notamment un de vos livres, Les catholiques en France, de 1789 à nos jours, chez Albin Michel. Ensemble, je voudrais qu'on regarde à la fois ce que sont les chantiers du nouveau pape à l'extérieur de l'Église et puis ensuite à l'intérieur de l'Église où là aussi il y a des choses majeures évidemment qui sont en train de se dérouler. Commençons par l'extérieur puisque le mot paix est revenu beaucoup dans son premier discours hier face aux fidèles qui s'étaient rassemblés au Vatican. Blandine Chélini-Pont, est-ce que ce nouveau pape devrait intervenir souvent, beaucoup, fortement dans le débat mondial?
Alors, je pense que le premier discours qu'il a fait hier devant la foule était une bonne indication de la priorité de ce pontificat, enfin telle qu'elle s'est donc visiblement dégagée sur sa personne, à savoir que l'Église catholique va être un ferment de paix ou va en tous les cas chercher à peser. Alors, à peser peut-être pas simplement par l'intermédiaire du pape qui va continuer à multiplier les voyages, à rencontrer des chefs d'État, à prendre la parole médiatiquement quand il y a des conflits, à essayer d'être un médiateur, mais il n'y a pas que lui. Donc c'est plutôt la dimension collective de la catholicité qui va être mise en branle derrière ce nouvel objectif. Et ce nouvel objectif, il est aussi donc il continuera les orientations du pape précédent sur donc la sollicitude vis-à-vis des migrants et des on pourrait dire des personnes exclues de la mondialisation et peut-être aussi dans l'orientation un dernier point qui va être la lutte pour le désarmement dans le monde. Je pense que vu le caractère de ce pape, ce qu'il a pu dire et écrire auparavant, sa proposition de paix dans l'ordre international va être diffusée à l'ensemble du corps des catholiques.
On vous entend moins, Blandine Chélinipon, mais on va vous retrouver dans quelques instants. Je voulais vous faire réagir précisément, Denis Pelletier, sur cette question qui est importante. Question des réfugiés, question du capitalisme aussi, et de ses méfaits, en tout cas, tels que le pape François les décrivait, la question des inégalités, la question de l'écologie. Vous attendez-vous à un pape aussi offensif en la personne de Léon XIV ?
De toute manière, une des caractéristiques des papes du XXe siècle, c'est qu'on attend d'eux une parole qui ne soit pas seulement, c'est que le monde attend d'eux une parole qui ne soit pas seulement une parole pour les catholiques. Blandine Chélinipon tout à l'heure racontait comment un des aspects du pontificat de Léon XIII, c'était le renouvellement de la curie, le renouvellement du gouvernement romain et le renouvellement de la fonction, en fait, au bout du compte du pape. L'histoire des papes du XXe siècle, c'est l'histoire de gens dont on attend une parole, y compris dont on attend une parole quand on appartient à une société qui ne relève pas de ce qui va inspirer la parole du pape. Le premier à avoir été confronté à ça, c'est Benoît XV pendant les guerres de 14-18. Et ensuite, toute l'histoire du XXe siècle, c'est l'histoire de papes qui ne parlent pas que pour les catholiques. Et donc, la chose n'est pas nouvelle de ce point de vue-là. Ensuite, oui, de ce fait, le Benoît XIV, qui comprend bien la conjoncture, met en avant d'emblée ce qui nous préoccupe tous, c'est-à-dire la question de la paix, c'est-à-dire plus généralement, c'est-à-dire oui, la question de la paix,
dans
un de la guerre, dans un monde
la
qui est tout de même
à nouveau très présente.
Ben voilà, dans un monde où la guerre est revenue, enfin revenue, elle n'a jamais disparu, mais dans un monde dans lequel la guerre est extrêmement présente. Après, on peut discuter de la manière dont il se situera par rapport à son immédiat prédécesseur, mais le choix qui a été fait par les cardinaux, de ce point de vue-là, de ne pas prendre le successeur le plus proche, mais de prendre quelqu'un d'un tout petit peu décalé, même s'il est un successeur de Bergoglio, un homme de Bergoglio au départ, est un choix qui est intéressant et qui lui donne probablement davantage de marge de manœuvre que n'en avait par exemple Ratzinger par rapport à Jean-Paul II.
Ratzinger, c'était
Benoît XVI,
voilà, je le dis pour les non-vaticanistes ou les non-spécialistes de la vie de l'Église catholique. Marco Politi, toujours en duplex de Rome avec nous, je vais vous poser la même question. Est-ce que vous l'imaginez très interventionniste, ce pape ? Et d'ailleurs, est-ce d'abord ce que les catholiques et les membres de l'Église attendent de Léon XIV ?
Mais pas seulement le monde catholique. Parce que ça a été le premier collège des cardinaux de la société globale. Dans le collège des cardinaux, aujourd'hui, le Sud global, qui est le nouveau protagoniste de la scène internationale, le Sud global dans les conclaves est majoritaire vis-à-vis à l'Europe. C'est la première fois que l'Europe est à minorité. Alors certainement, toutes les grandes questions du pontificat de Bergoglio, la paix, le désarmement, le multilatéralisme dans la vie internationale, ou la question écologique et la question de contraster un capitalisme sauvage, alors, ça... Vraiment, seront les chantiers où le nouveau pape va travailler. C'est très clair. Surtout sur la question de la paix. On a vu que le pape François, par exemple, dans la guerre de l'Ukraine, était très critiqué et disons, diplomatiquement attaqué par les États de l'OTAN, par les États de l'Union européenne parce qu'il n'était pas officiellement contre la Russie, contre Poutine. Mais en même temps, il avait le consensus des pays du Sud global qui ne voulaient pas se mettre à côté de Washington ou à côté de Moscou, mais qui veulent un nouveau ordre mondial multilatéraliste. Ce que François appelait une conférence de Helsinki numéro 2. Mm. Mais certainement, le pape Léon XIV aura un langage plus diplomatique, disons, pas avec certains éclats comme était avec Bergoglio.
Blandine Chély-Nippon, peut-il faire l'unité des catholiques sur le message, les messages qu'il délivrera sur ces grands débats? On commençait tout à l'heure, dans la première partie de cet entretien, à évoquer le face-à-face entre le vice-président américain J.D. Vance et le prédécesseur de Léon XIV, le pape François. Les mots étaient très rudes. Le vice-président des États-Unis reprochait à l'Église de sortir de son rôle, tout simplement. Et j'évoquais l'ordo amoris, l'ordre de l'amour. Il lui reprochait de s'intéresser aux réfugiés, par exemple. Est-ce que ça va continuer? Est-ce que ça peut continuer sur cette voie, d'après vous?
Alors, Monsieur Politi vient de le dire à l'instant, le style, sans doute, de ce nouveau pape va être assez différent du précédent, parce que autant François avait une personnalité extrêmement, on va dire, médiatique, au sens où il intervenait souvent, il prenait la parole à titre personnel, la personnalité de ce pape-là paraît plus modeste. Donc les coups d'éclat éventuels seront peut-être moins nombreux, mais il est certain que la réponse qu'avait faite François à J.D. Vance à travers sa lettre aux évêques américains réexpliquant ce qu'était l'ordo amoris, c'est un peu un renvoi d'ascenseur. Si donc le président J.D. Vance considérait que l'Église sortait de son rôle, eh bien peut-être que le pape lui a alors répondu que l'État, et en tous les cas la présidence et la vice-présidence américaine, n'avaient pas à se mêler de religion à ce point-là. Donc, si vous voulez, je crois qu'on a dans l'élection de ce pape, je m'excuse de revenir sur sa nationalité, mais on a quand même l'impression que cette nouvelle période, cette nouvelle papauté va faire très attention à ne pas donner l'impression à aucun moment d'être inféodé à quelque pouvoir que ce soit. Et au contraire, à proposer des solutions par la société civile. Et donc, de ce point de vue, demande à ce que les catholiques soient eux-mêmes des artisans, des ferments de paix dans leur société. Et n'oublie jamais qu'ils forment une communauté globale avec donc des priorités communes liées à leur foi commune et universelle. Donc, je dirais que c'est un ferment de nouvel universalisme ou un rappel de ce qu'est l'universalisme à une époque où celui-ci est complètement contesté par le désordre international qui est en train de s'installer.
Nous avons quelques indices sur la vision que le nouveau pape a de l'Église. Il a beaucoup insisté hier, encore une fois, dans ce premier discours dont on fait les uns et les autres l'exégèse, sur l'idée d'une Église et d'un pape qui serait dans le témoignage d'abord, le témoignage chrétien, peut-être ou pas, je ne sais pas, avant les questions de doctrine. Qu'en pensez-vous, Denis Pelletier? Le pape missionnaire, le pape qui incarne quelque chose, le message du Christ.
L'Église, c'est une monarchie élective dont les électeurs ne sont pas eux-mêmes des élus. C'est ça le conclave. Donc on dit tous un peu la même chose autour de ce pape, c'est-à-dire ce qui est intéressant en fait, c'est ce qui est intéressant moi je pense, c'est que dans ce contexte-là, c'est-à-dire une assemblée sans campagne électorale visible préalable se réunit et élit un pape. Et cette assemblée est une assemblée à travers laquelle doit s'incarner le monde. Et donc ce qui est intéressant, c'est le type, c'est la représentation que se sont fait les cardinaux de la conjoncture immédiate. Et moi, je pense qu'effectivement, cette représentation, elle donne l'élection de ce cardinal américain, péruvien, transnational, qui met en avant la question de la paix, qui sera certainement interventionniste, qui sera certainement plus prudent dans ses interventions que son prédécesseur, et qui pour autant ne renoncera pas, parce qu'il est un héritier de son prédécesseur, qui ne renoncera pas à ce que nous découvrons d'un seul coup, à travers l'élection, que c'est irréversible dans l'œuvre de François. C'est-à-dire le début de la, c'est-à-dire la synodalité, c'est-à-dire un certain positionnement sur l'actualité mondiale, c'est-à-dire la mise en avant de la question des migrants et le migrant comme le frère à partir duquel on pense l'universalisme du catholicisme, c'est-à-dire la question de l'écologie. Je crois qu'il faut vraiment le voir de cette manière-là. C'est la façon dont des gens qui se réunissent pour élire quelqu'un se représentent l'urgence du moment.
Il y a tout ce qu'on voit à l'extérieur et qu'on évoque depuis quelques minutes, et puis il y a aussi tout ce qui va se passer à l'intérieur de l'Église. Et ça, pour les cardinaux qui ont voté hier, c'est évidemment majeur, c'est évidemment essentiel. Dites-nous, Marco Politi, à cet égard, ce qui est le plus important aujourd'hui au sein de l'Église. Quel est le premier chantier du nouveau pape ?
Les chantiers sont deux. Nous avons déjà parlé de l'universalisme et du rôle très fort du pape sur la scène mondiale. Mais aussi à l'intérieur, la présentation d'hier était déjà pleine de raffinesse. Parce que l'Église catholique a vécu 10 ans de guerres civiles souterraines, parce que les ultra-traditionalistes, les ultra-conservateurs ont commencé ad attaquer systématiquement le pape Bergoglio pour la question de la communion aux divorciés et mariés, pour le droit de citoyenneté aux homosexuels, la bénédiction des couples homosexuels, les rôles des femmes. Alors, hier, Léo XIV a donné des signes d'attention pour le monde traditionnel. Alors, la première chose, c'est le nom. C'est un nom qui vient de la tradition des papes. La seconde chose, c'est la robe. Il a repris la motette rouge de ses prédécesseurs. François ne voulait pas. François avait seulement la robe blanche. Alors, la motette rouge, hier, la stola, il a commencé à parler de Christ, de la résurrection de Christ. Il a terminé avec la prière à la Vierge Marie. Alors, tout ça sont des signes pour une relation plus forte avec le monde de la tradition catholique. Mais en même temps, le conclave a choisi pour la troisième fois un pape qui connaît la poussière de la rue, qui connaît la difficulté de la vie quotidienne. En tant que prévost, était missionnaire dans l'Amérique du Sud, dans une ville comme Callao, qui est un des centres de la mafia de la cocaïne. Alors, Jean-Paul II, Wojtyla, connaît le monde du travail. Il avait travaillé, il avait vu des camarades du travail qui étaient morts. Et François connaissait Bergoglio, connaissait très bien les bidonvilles, les terribles bidonvilles qui sont autour de Buenos Aires. Et voilà, encore une fois, le conclave a choisi quelqu'un qui ne vient pas du monde seulement de la curie ou de la diplomatie, mais qui connaît la vie comme elle est.
Nous n'avons pas encore évoqué une question qui est pourtant majeur dans l'Église française et dans l'Église mondiale, c'est la question des crimes sexuels au sein de l'Église, de la pédocriminalité aussi, avec des scandales qui surgissent, qui ressurgissent, y compris d'ailleurs en Amérique, le continent d'où est originaire le nouveau pape, Blandine Chély-Nippon. S'est-il confronté à cette question déjà ?
Alors oui, il s'y est confronté par deux fois. Une fois au Pérou et une fois quand il est revenu à Chicago dans les années 2000. Et ce point de vue aussi est intéressant parce que il fait partie. Je vais y revenir tout de suite sur les deux cas dont je parle, mais il fait partie des trois cardinaux qui, plus que deux, trois, d'à peu près des six cardinaux qui étaient présents. Qui étaient présents au conclave et qui ont adopté, développé priorisé la politique de zéro tolérance aux abus sexuels. Et le fait qu'il soit américain et que cette question des abus sexuels a surgi précocement aux États-Unis et a eu un effet à la fois dévastateur sur les communautés catholiques et sur les diocèses et sur la réputation de l'Église catholique. Donc, si vous voulez, c'est un pape qui a l'expérience de cette crise très forte au sein de l'Église catholique en Occident. Mais lui-même, il a été critiqué quand il était évêque au Pérou pour sa gestion des prêtres accusés d'abus sexuels. Le diocèse de Chiclayo a déclaré d'ailleurs qu'il avait ouvert une enquête et qu'il a été par la suite lavé de tout soupçon. Mais ça a recommencé aussi quand il était donc à Chicago avec des militants qui ont survécu parmi l'association des survivants d'abus sexuels, son bureau n'avait pas averti une école catholique voisine qu'un prêtre avait été reconnu coupable d'avoir abusé de jeunes garçons alors qu'il était hébergé dans un monastère voisin dont il était lui-même supérieur. Voilà, mais donc ces histoires vont ressortir. Si jamais elles ne sont pas déjà très connues, elles vont sans doute ressortir. Donc, c'était un risque parce que quasiment tous les cardinaux américains ont des plaintes sur cette question qui ne sont pas fondées sur leur propre culpabilité, mais peut-être sur le silence à un moment donné ou un autre de leur fonction au cours de leur vie pastorale.
Est-ce que l'Église est au clair sur cette question aujourd'hui, Denis Pelletier, pape après pape ?
Est-ce que l'Église est au clair
dans sa détermination à lutter ?
Je ne poserai pas la question de cette manière-là. Oui, je pense qu'il y a un certain nombre de choses qui ont été comprises. Mais je ne poserai pas la question de cette manière-là. Pour moi, c'est un pape qui est très révélateur de cette partie de la hiérarchie catholique qui a compris, j'ai envie de dire, à son corps défendant, ce qu'il était en train de se passer à son corps défendant et presque à sa culture défendante. C'est-à-dire que ma collègue le disait très justement tout de suite, on a des reproches à lui faire sur la manière dont il a géré dans un premier temps la question de la criminalité sexuelle, et je pense qu'il a compris petit à petit et il participe encore une fois de cette Église, de cette partie de l'Église qui peu à peu comprend ce qui se passe. Cela dit, cette affaire de cette question de la criminalité sexuelle est une question qui est apparue donc aux États-Unis à la fin des années 70, au début des années 80, et qui se déploie à travers le monde entier selon une chronologie longue, parce que partout où la question est posée, il y a des résistances très très fortes. Et donc, comment vous dire ? Oui, il y a des gens dans l'Église qui ont compris, et notamment au sommet de l'Église, il y a des gens qui ont compris. Mais l'Église est une Église globale maintenant, et donc de continent en continent, de pays en pays, y compris à l'intérieur de l'Europe, il y a des résistances. Et ces résistances font que la crise dure. Et que ça va être une des grosses difficultés de ce pontificat, mais cela aurait été pour n'importe quel successeur de François, ça va être évidemment une des grandes difficultés à gérer. C'est une crise longue et c'est une crise globale, la crise de la criminalité sexuelle.
Et c'est évidemment un des chantiers importants pour ce nouveau pape, Léon XIV, dont nous avons découvert quelques aspects grâce à vous ce matin. Un grand merci. Denis Pelletier, directeur d'études à l'École pratique des hautes études. Merci à vous également, Blandine Chélini-Pon, professeur d'histoire contemporaine à l'Université d'Aix-Marseille. Et je salue de Paris à Rome Marco Politi, spécialiste du Vatican, qui était en direct également avec nous ce matin. Je rappelle qu'on peut retrouver cet échange et vos analyses croisées sur l'appli Radio France et sur le site franceculture.fr.
Le souffle de la pensée. Ce vendredi, l'anti-Œdipe de Gilles Deleuze et Félix Guattari.
Géraldine Mosna-Savoie.
À 18 ans, le traducteur, écrivain, éditeur Claro découvre le livre-événement de l'après-68, l'anti-Œdipe de Deleuze et Guattari. Corps sans organes, schizoanalyse, écriture rhizomatique. Comment cette lecture a-t-elle mis en route la machine de son œuvre littéraire? Il vient nous en parler.
Le souffle de la pensée, chaque vendredi à 10h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
L'histoire des sciences nous explique comment les connaissances évoluent dans le temps.
Antoine Beauchamp.
L'archéologie est une science qui s'occupe de comprendre ce que le temps qui passe fait aux sociétés humaines. À la croisée de ces chemins, il y a Science Chrono. Une heure pour passer d'une époque à une autre et plonger dans les archives et les vestiges de l'humanité.
Science Chrono, chaque vendredi à 16h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Rapidement, la suite du programme avant le journal de Mathilde Cariou. Bonjour Lucille Como.
Bonjour Jean.
Une série avec vous ce matin dans le regard culturel.
Oui, une série qui existe depuis un petit moment, mais qui se trouve être maintenant disponible sur Arte. C'est toujours très agréable de regarder séries sur Arte. Et en plus, en intégralité, donc 3 saisons. Cette série, elle s'appelle Rami et ça se passe dans le New Jersey. C'est l'histoire d'une famille arabe musulmane dans le New Jersey.
Vous nous dites tout dans 5 minutes. François Saltiel, de son côté, s'arrêtera sur les méthodes contestables de l'armée ukrainienne pour motiver ses soldats. Il est question de jeux vidéo ou des méthodes des jeux vidéo, vous verrez. Il est 9h moins le quart sur France Culture. Le 8h45, le journal Mathilde Cariou. Bonjour Mathilde.
Bonjour Jean, bonjour à tous. Un pape américain, voire sud-américain, Léon XIV a beau être né à Washington, c'est au Pérou qu'il a passé le plus clair de sa carrière. Nous sommes à Cusco sur les traces du nouveau chef de l'Église dès le début de ce journal. Et puis, tous à l'opéra, c'est le dossier de ce 8h45. Louis-Valentin Lopez nous emmène à la rencontre des costumiers de l'opéra comique. Le pape est péruvien, voilà ce qu'on peut lire ce matin dans de nombreux journaux sud-américains. Alors ça n'est pas tout à fait vrai, celui qu'on appellera désormais Léon XIV est né à Chicago, mais il a effectivement passé une grande partie de sa vie au Pérou, jusqu'à obtenir la double nationalité en 2015. Alors à l'annonce de son élection hier à Cusco, c'est une immense joie qui a envahi les fidèles. Reportage Amanda Chaparro.
Sur le parvis de la cathédrale de Cusco, la très catholique ville du sud du pays, des fidèles s'étaient rassemblés jeudi soir. La messe de 18h était l'occasion de célébrer l'élection de ce nouveau pape, ici présenté comme péruvien, lui qui a passé près de 30 ans dans le pays andin. Hier soir, les croyants oscillaient entre surprise, joie et fierté.
Quoi ? Quand on a annoncé un pape péruvien ? Comment ? Quoi ?
Qui ?
C'est une immense joie pour les Péruviens et les Latino-Américains. C'est une fierté, une émotion. Il connaît la réalité du Pérou. C'est beau, je suis vraiment heureuse.
Inconnu de la majorité des catholiques péruviens, en dehors des terres où il a officié comme évêque, dans le nord du pays, à plus d'un millier et demi de kilomètres de Cusco, le pape est décrit par les journaux locaux comme une personne simple, très proche de la population.
Il connaît la réalité latino-américaine, donc on espère une plus grande connexion, qu'on se sente plus proche du pape et de Dieu.
Nul ici ne doute que le pape rendra visite à cette terre qu'il a accueillie comme citoyen péruvien et pour laquelle il a exprimé, dès son premier message à Rome jeudi soir, son profond attachement.
Amanda Chaparro à Cusco pour France Culture. On reviendra bien sûr sur cette élection, sur ce nouveau pape, les chantiers qui l'attendent à la mi-journée. Jean-Benoît Poulpe, spécialiste du Vatican, sera l'invité du journal de 12h30. Jour de commémoration en Russie, au lendemain des cérémonies en France, le Kremlin célèbre la victoire de 45 sur l'Allemagne nazie. Démonstration de force pour Vladimir Poutine qui fait défiler ses troupes sur la place rouge sous les yeux d'une trentaine de dirigeants étrangers. Le maître du Kremlin ne devrait pas se priver à nouveau de dresser un parallèle avec la guerre qu'il mène en ce moment en Ukraine. Le 9 mai, c'est aussi le jour choisi par la France et la Pologne pour signer un traité d'amitié et de coopération. Emmanuel Macron est à Nancy aujourd'hui avec le Premier ministre Donald Tusk. La Pologne, voisine de l'Ukraine, est un allié incontournable dans le maintien de la sécurité européenne. Le dernier traité bilatéral entre les deux pays remonte à 91 lorsque la Pologne sortait tout juste du bloc soviétique. un délai supplémentaire pour atteindre les objectifs de décarbonation. Ça concerne le secteur automobile européen, tiraillé entre la protection de son industrie et ses ambitions climatiques. Le Parlement autorise les constructeurs à prendre en compte leurs émissions de CO2 sur 3 ans au lieu d'un pour éviter les amendes au 31 décembre 2025. Démarche largement réprouvée par les écologistes qui dénoncent un recul des mesures climatiques au nom de la compétitivité économique. 60% de grévistes parmi les chefs de bord et pourtant 9 TGV sur 10 circulent aujourd'hui en France. La grève se poursuit à la SNCF, mais les syndicats dénoncent la stratégie de la direction qui consiste à mobiliser des cadres pour contourner la grève. La CGT relance un appel à la mobilisation pour les 4, 5 et 11 juin prochains. Le dossier de ce 8-45 nous emmène à l'Opéra, puisque 23 grandes salles de France ouvrent leurs portes dès aujourd'hui et pour tout le week-end. Démocratiser l'art lyrique, c'est l'objectif de cette opération Tous à l'Opéra. Au programme des cours de chant, de danse et puis un accès exceptionnel aux coulisses. L'Opéra Comique, par exemple, propose de visiter son atelier de costumes, domaine un petit peu niche que l'on imagine préservé de l'agitation politico-économique. Et pourtant, les couturiers de l'Opéra font face aux mêmes restrictions budgétaire que les autres secteurs. Louis-Valentin Lopez est allé à leur rencontre.
Ici, à l'Opéra Comique, les costumes sont confectionnés de la tête aux chevilles. À part les chaussures, tout est fait maison et sur mesure. Tiffaine Deschamps, chef d'atelier, y veille.
On a besoin de toutes les mesures possibles du corps. C'est vraiment la base de notre travail, c'est les mesures des artistes. Tour de cou, tour de poitrine, tour de bassin. On travaille vraiment sur l'architecture du corps, en fait.
Et le travail commence longtemps en amont des productions, raconte Alexandre Baudin, le chef du service costume.
Premier rendez-vous, pré-maquette, on est 12 mois avant. 3 mois après, il y a la présentation des maquettes, donc on est 9 mois avant la première. Donc là, cette fois-ci, je peux budgétiser, j'ai des discussions avec les créateurs. Et après, on commence à réaliser, ça peut varier, 3 à 5 mois avant le lancement du projet.
Et le budget est une préoccupation constante.
Le costume de spectacle tel qu'il est fait aujourd'hui a un coût comme certaines pièces de haute couture. Hein. Un costume monte très vite sur les 3, 4, 5, 6, 7, 8 000 euros. Hein. Ça va très très vite. Les matières coûtent beaucoup plus cher. Là, depuis quelques années. Et la main-d'œuvre aussi a augmenté. Et comme on demande de toute façon d'avoir des technicités très particulières, ça se paye.
Des technicités très particulières comme celle des perruquiers. Nel Chevert met environ 90 heures pour implanter un à un les cheveux d'une perruque.
Maille par maille, donc là on a des petites mailles ici, alvéolées. Et après avec des cheveux et une boucle, on vient faire des nœuds. C'est du poil de yak. Pour avoir le côté très blanc et le côté très hirsute qu'on veut pour la barbe de Merlin.
Et là aussi, l'inflation s'en mêle.
Le business de l'extension capillaire a fait exploser le domaine du cheveu. Donc acheter les cheveux, ça coûte très cher. Donc une perruque à l'Opéra Comique, une perruque implantée à la main, on a entre 3 et 4 000 euros la perruque.
L'Opéra Comique, riche de 6000 pièces, l'immense majorité est conservée dans un grand stock en région, mais l'atelier donne un aperçu. Des blazers austères côtoient des costumes de plantes carnivores ou de machines à laver. Bruno Jouvet, chef costumier.
C'est un laboratoire. Et d'ailleurs, ce qui est un peu stressant, c'est que chaque projet qu'on démarre, on pense même après 20 ans de métier ou 30 ans de métier, qu'on sait des choses et en fait, à chaque fois, on se dit, eh mince, donc c'est des recherches parce que les techniques, les matériaux sont différents, plein de choses comme ça, quoi.
Un savoir-faire qu'il faut préserver, l'Opéra Comique est l'une des rares maisons lyriques françaises à encore disposer de son propre atelier de costumes.
Reportage à l'Opéra Comique signé Louis-Valentin Lopez. Un mot du temps pour ce matin. On a du soleil sur toute la moitié nord, quelques nuages au sud, de la pluie dans la matinée sur le pourtour méditerranéen et les températures sont comprises entre 14 et 17 degrés. Suite et fin des matins avec vous Jean-Lémarie.
Merci Mathilde Cariou.
Les matins de France Culture. Jean-Lémarie.
Et la suite des matins, c'est le Monde Connecté de François Saltiel. François, aujourd'hui, une enquête du site Politico qui éclaire des méthodes qu'on va qualifier de contestables, des méthodes employées par l'armée ukrainienne pour motiver ses soldats.
Oui, Jean, le média américain révèle de sombres stratégies de gamification de la guerre ou de ludification, pour employer un terme français. Un programme baptisé « Bonus de l'armée des drones » récompense les pilotes en empruntant des techniques propres aux jeux vidéo, comme la quête de points. Dans le programme, chaque endommagement d'un char offre 20 points. Vous pouvez en récolter 40 en cas de destruction totale, 50 si vous détruisez un système de roquettes mobiles et seulement 6 pour tuer un soldat ennemi. La mort d'un homme a donc moins de valeur que sa machine de guerre. Pour attester de leur performance, les soldats ukrainiens doivent télécharger les images vidéo prises par leurs drones pour valider leurs points afin de prochainement les convertir en achat de nouveaux équipements, exactement comme dans un jeu classique où le joueur augmente la puissance de ses armes au fil des avancées. Le drone Vampire sera disponible pour 43 points sur la place de marché numérique Brave One Market. Les soldats peuvent même y laisser avis et commentaires. Comme le déclare Mikhailo Fedorov, le vice-premier ministre ukrainien, Brave One Market sera comme Amazon. Elle permettra aux unités militaires d'acheter directement les technologies dont elles ont besoin. Le tout en s'affranchissant de certaines lourdeurs administratives.
Ouais, une esthétique vidéoludique qui parle à une nouvelle génération de soldats, François.
Oui, les jeunes combattants ukrainiens sont majoritairement des gamers. Ils jouent autant pour le plaisir que pour s'entraîner. L'armée propose de nombreuses formations de pilotage qui mobilisent des simulateurs avec écran et manette pour se préparer au combat. En Ukraine, ce n'est pas la drôle de guerre, mais la guerre des drones. Ces engins se sont imposés depuis le début du conflit comme des pièces maîtresses. Pour les manœuvrer, il faut de la dextérité, un doigté, de la concentration, des réflexes et une capacité à résister à la pression. Tout ce que le jeu vidéo développe. L'Ukraine utilise 10 000 drones par jour et 200 000 modèles à vue subjective sont produits chaque mois. Leurs caméras permettent également de réaliser des séquences vidéo qui, une fois diffusées sur les réseaux sociaux, en rythme et en musique, permettent à moindre frais de développer une campagne de propagande et de recrutement. Les drones permettent aussi de tuer à distance, une pratique qui pose évidemment une question éthique autour d'une potentielle déréalisation de la mort, un phénomène qualifié de tampon moral, une distance qui pourrait déshumaniser l'acte meurtrier. Ces procédés de gamification renforcent cette interrogation. Les frontières s'effacent de plus en plus entre réel et virtuel, et les gamers combattants doivent se rappeler que sur le front, ils ne disposent que d'une seule vie.
Merci François Saltiel, Le Monde Connecté sur franceculture.fr. C'est à nous Lucille Comeau pour votre regard culturel de ce vendredi. Et donc une série, vous commenciez à nous en parler, une série qu'on peut voir intégralement et gratuitement sur Arte, elle s'intitule Rami.
Oui, enfin disponible facilement en France, les trois saisons de Rami, du nom du créateur américain Rami Youssef, humoriste et acteur d'origine égyptienne, mais aussi du personnage qu'il interprète dans la série, un jeune musulman du New Jersey qui navigue non sans errance et tempête dans l'existence. Trois saisons qui dessinent comme en mosaïque le portrait d'une communauté arabo-américaine peu représentée dans la fiction et qui résonne avec d'autres séries comme elle, notamment l'excellente Atlanta de Donald Glover. Alors au seuil de la première saison, Rami a une vingtaine d'années, il travaille dans une petite start-up, porte des casquettes et des sweats colorés et rencontre des jeunes femmes sur des applications comme toute la jeunesse mondialisée. Le premier épisode ouvre pourtant sur une scène à la mosquée. Rami dépose ses chaussures sur une étagère, se range dans une file d'attente pour faire les ablutions rituelles. Une file qu'il trouve interminable, il soupire, puis repart dans l'autre sens, ouvre une porte, trouve un autre vestiaire et toujours aussi impatient, entreprend de nettoyer ses pieds sans même enlever ses chaussettes. Là-dessus apparaît un vieil homme qui le tense, il n'a pas nettoyé entre ses orteils, il ne peut pas prétendre au statut de bon musulman. Cet homme, on ne sait pas d'abord si c'est un usager de la mosquée ou si c'est une apparition, l'incarnation de sa mauvaise conscience. Car tout le problème de Rami, c'est comment concilier sa foi vacillante et sans cesse remise en question avec sa vie quotidienne, son rapport aux femmes, au mariage, à ses parents, à l'argent, au sexe et au porno qu'il consomme beaucoup, beaucoup trop, pense-t-il. Il y a d'abord quelque chose de fléché, même un peu laborieux, dans des premiers épisodes qui ressemblent à une succession de cas d'école thématiques. Sans doute l'ambition pédagogique de représenter cette communauté peu connue l'emporte sur le récit et le comique. Mais Rami prend de l'ampleur. Les personnages se complexifient, sa situation sentimentale et maritale passe au second plan et la troisième saison gagne en épaisseur et en étrangeté.
Sous quelle forme, Lucille ?
Alors après un mariage express et à l'issue catastrophique avec une femme pratiquante, Rami se retrouve plus flottant que jamais, endetté, sans logement à lui, alors que ses parents eux-mêmes galèrent pour garder la maison familiale. Alors qu'il travaille dans la bijouterie de son oncle, il fait la connaissance d'un vendeur de diamants et se retrouve retrouve dans des combines qui le mènent jusqu'à Jérusalem auprès d'une riche entrepreneuse juive. Le prétexte à un épisode saisissant, littéralement coupé en deux, où Rami se trouve d'un côté et de l'autre de la frontière et fait l'expérience de la coupure comme dans un cauchemar absurde. Ce sont ces épisodes-là, quand l'humour devient noir et la comédie étrange, que Rami ressemble à sa grande cousine Atlanta, qui dépeignait, elle, la communauté afro-américaine autour d'un personnage d'aspirant producteur de musique joué par Donald Glover. Atlanta élaborait des épisodes volontiers digressifs, des dispositifs à la limite du surréalisme, pour montrer, dans la forme, ce qu'il y avait de clivé et d'aberrant dans la posture noire américaine. Être noir faisait vriller les codes de la série, littéralement. C'est un peu aussi le cas de Rami. Le fait que le héros soit musulman modifie les enjeux et les motifs classiques de la série américaine comique, parce que les contradictions dans l'identité des personnages imposées par des injonctions culturelles différentes exigent d'aménager la fiction telle qu'on la connaît, d'ajouter du digressif, du bizarre, de l'inquiétude et de la gêne. Dans le cas de Rami, cet aménagement est moins spectaculaire que dans Atlanta, sans doute parce qu'être musulman aux États-Unis est une manière autre d'être minoritaire, plus éparpillé, tant la communauté est variée et diverse. Rami, qui commence comme une comédie romantique, à l'humour communautaire un peu convenu, assume au fil des saisons un éparpillement bienvenu.
Merci Lucille Comeau. Et merci aussi à toute l'équipe des Matins, Marie-Lise de Saint-Salvi et Malie Steinstein, Mathilde Tonfourcade, Juliette Moellic, Marguerite Caton, Juliette Deveau, Simon Denis et Hugo Vlaminck. À la réalisation, Félicie Faugère. À la réalisation des journaux ce matin, il y avait Nicolas Paumet et Antoine Boucher. Et à la prise de son, Jean-Guilain Meige et Nicolas Bonnet. J'ai un instant pour vous donner une partie de notre programme aujourd'hui sur France Culture. Dans les midis de culture, la rencontre à partir de 13h aujourd'hui avec Jeff Goldblum, acteur américain et pianiste de jazz. Classe, ça c'est le commentaire de Lucille Comeau. Et vous pourrez tout à l'heure l'entendre donc à partir de 13h. Mais bien avant tout ça, c'est évidemment le moment de retrouver le camarade Xavier Mauduit pour le cours de l'histoire. Bonjour mon cher Xavier.
Bonjour Jean-Lémarie. Vous avez joué de l'harmonica de verre ?
Vous pouvez recommencer à poser cette question à nous.
c'était pas
l'harmonica de verre, mais c'est un instrument extrêmement courant, on en croise partout. Non, instrument